selon Hubert Védrine.
Bonjour Hubert Védrine. Ce matin, vous souhaitiez nous parler de la Turquie et de ses rapports avec l'Europe.
Oui, je trouve que ça mérite qu'on y revienne, notamment après le voyage de Madame Merkel en Turquie. Il faut rappeler deux ou trois choses à propos de la Turquie. La Turquie avait présenté une demande d'adhésion à l'Union européenne en 1987. On aurait pu dire comme au Maroc, on aurait pu dire vous êtes un pays formidable, très important, mais vous n'êtes pas en Europe, donc la question se pose pas comme ça. Mais les Européens n'ont pas osé dire ça à cause du poids de la Turquie et à cause de la peur de paraître comme anti-musulman si on avait répondu ça, même si la Turquie, surtout à l'époque, était encore en théorie un pays laïque. Depuis l'influence de Mustafa Kemal, il s'est passé des années d'embarras. La position européenne par rapport à la Turquie a toujours été compliquée, ambiguë, contournée, beaucoup de non-dits, beaucoup de sous-entendus, etc. Finalement, ça a été accepté en 1999, à la candidature en tout cas. C'est une époque avant l'arrivée au pouvoir des islamistes, avant l'arrivée au pouvoir de l'AKP d'Erdogan, qui est arrivé au pouvoir en 2003. Donc la demande acceptée en principe en 99. Les négociations commencent en 2005, et là il y a une assez bonne période, puisqu'au début, M. Erdogan, avant d'être élu président plus tard, a eu trois mandats comme Premier ministre. C'est une époque où la Turquie se modernise, l'islamisme de la KP a l'air réellement modéré, il est peut-être simplement patient et habile, mais en tout cas il apparaît comme modéré. La Turquie veut avoir de bons rapports de voisinage, et même un slogan qui est « zéro problème avec les voisins ». Et les négociations s'engagent, enfin elles sont très très compliquées, les négociations avec la Turquie, surtout s'il y avait au bout du compte, si elles étaient conclues, l'idée de la libre circulation. Il y a quand même près de 80 millions de Turcs, donc il y a beaucoup de pays européens sont déjà, avant les histoires récentes, hein, terrorisés par toute cette question. Mais enfin, il y a quelques bonnes années jusqu'à ce que ça se dégrade dans la période plus récente, à la fois parce que Erdogan se fait élire président, mais il veut changer la constitution pour pouvoir se faire réélire après, avoir encore plus de pouvoir, donc il a besoin d'une majorité encore plus forte. Les négociations s'enlisent, parce qu'elles sont objectivement très, 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 très compliquées. La situation régionale se dégrade, comme on le sait. Les printemps arabes font espérer aux Turcs, qui ont une sorte de vision à l'époque, on dit néo-ottomane, enfin l'idée de reconstituer l'influence de la Turquie sur l'ensemble du Moyen-Orient. Et ils pensent vraiment que grâce au printemps arabe, la chute des despotismes, les élections partout, les frères musulmans vont arriver au pouvoir partout. Ils pensent que c'est fait en Égypte, quand les frères musulmans arrivent pour de vrai. Et ils pensent que ça va être le cas en Syrie. Et ils s'engagent énormément dans la guerre civile en Syrie, non pas parce que le régime Assad est cruellement répressif, mais parce qu'ils veulent en Syrie un régime sunnite proche des frères musulmans comme eux, en fait. Donc ça, c'est la période récente. Du coup, les relations se refroidissent avec l'Europe, même si l'Europe est elle-même confuse et ambiguë sur tous ces sujets, globalement quand même l'enthousiasme par rapport à la Turquie est moins fort, et on entre dans la période où on commence à trouver qu'Erdogan est mégalomane, qui manipule un peu tout pour se faire réélire, il y a même des doutes horribles sur les histoires d'attentats, personne ne sait très bien, et pendant ce temps-là, la guerre civile en Syrie se développe, il y a des millions de déplacés, dont 2 millions, près de 2 millions qui sont réfugiés en Turquie. Pendant longtemps, on dit, c'est comme ça, enfin, on s'en occupe pas énormément, jusqu'à ce que dans la période récente, pour d'autres raisons qui seraient trop longues de rappeler ce matin, mais que tout le monde connaît, une partie de ces réfugiés se mettent en marche, quasiment à pied, en voiture, et vont vers l'Europe. Alors là, panique générale, puisque rien n'est vraiment harmonisé ni véritablement prêt pour les accueillir, et on n'a pas distingué entre asile et immigration, on ne sait pas comment gérer. Et comme les frontières extérieures de Schengen sont une passoire, les pays les uns après les autres rétablissent des frontières internes, se font engueuler par tous les bien-pensants, partout, y compris en France, y compris nous d'ailleurs. Bon. Mais évidemment, ils rétablissent ce qui est autorisé dans Schengen si les frontières extérieures ne marchent plus. Voilà le contexte. Et on en arrive à une situation où finalement, en panique, Madame Merkel, toute seule, après un Conseil européen, va en Turquie et Erdogan en profite avec sa liste de demandes. Il veut 3 milliards d'euros pour être aidé à gérer les réfugiés sur place, si on veut qu'ils restent là-bas. Exemption de visa, donc ça nous renvoie à la question de la libre circulation. Reprise des négociations d'adhésion, c'est une farce, parce que même si on arrive à les conclure, c'est pas ratifiable, globalement. Participation turque au sommet européen. Mettre la Turquie sur la liste des pays sûrs, ça veut dire qu'un Kurde ne peut pas demander l'asile en Europe si c'est le cas. Établissement d'une zone de sécurité. Voilà, dans un monde idéal, beaucoup de ces questions auraient été réglées avant. C'est pas Madame Merkel qui aurait été toute seule, mais le président du Conseil européen, Monsieur Tusk. Et surtout, on ne l'aurait pas fait juste avant les élections du 1er novembre. dans quelques jours, où Erdogan espère retrouver sa majorité. Donc c'est un exemple de plus, comme on en parlait la semaine dernière, du fait que les choses ne marchent pas comme elles le devraient.